France Info.
Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans les informés avec, comme vous le savez, comme tous les samedis, les correspondants de la presse étrangère en France. Au menu ce soir, Gabriel Attal en déplacement dans le département de la Manche, le Premier ministre qui veut tourner la page de la crise agricole sur fond, bien sûr, de campagne des européennes. Cette nouvelle manifestation en Israël pour la libération des otages, alors que l'espoir d'une trêve refait surface et que le Hamas vient de publier une vidéo montrant deux otages enlevés le 7 octobre, il y a donc presque 7 mois. La flamme olympique est de retour vers la France. Elle a quitté la Grèce à bord du bateau Le Bel MS. Commenté dans les autres pays, va-t-on désormais parler de sport au-delà de toutes les polémiques autour des JO, sécurité, logement ou encore transport? Et puis la fête des librairies indépendantes. Quelle place pour les librairies en France et ailleurs? Mesures politiques et économiques autour du livre, prix, taxes ne sont pas les mêmes partout. Dans le studio de France Info, pour commenter, analyser, débattre de tous ces sujets, Ana Navarro-Pedro, bonsoir.
Bonsoir.
Correspondante de la presse portugaise. Adeline Percept, bonsoir Adeline.
Bonsoir.
Correspondante de la RTBF à Paris. Richard Verli est là également, bonsoir.
Bonsoir Victor.
Correspondant Europe et France du quotidien suisse Blick. Et Henrik Bonnet, bonsoir Henrik.
Bonsoir.
Journaliste espagnol pour El Periodico. C'est parti pour une heure de débat. Tourner la page de la crise agricole, l'un des objectifs de Gabriel Attal, donc le Premier ministre en déplacement avec le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau à Pirou, dans le département de la Manche. Au-delà de l'aspect pittoresque de la foire au bulot, le chef du gouvernement a annoncé plusieurs mesures à destination des éleveurs et agriculteurs, 2 mois après leur mouvement de contestation. Gabriel Attal qui assure que le lien n'a jamais été rompu.
Le dialogue avec les agriculteurs et leurs représentants, il est continu et permanent. Depuis plusieurs mois maintenant, avec évidemment en première ligne Marc Fesneau, on est au contact des agriculteurs, on échange en permanence et surtout on travaille à des mesures concrètes pour nos agriculteurs. Il y a déjà eu une première série d'engagements que j'ai pris il y a maintenant plusieurs semaines, 62 engagements. Le président de la République a également annoncé des mesures et ce matin nous avons annoncé une série de 14 nouveaux engagements qui ont été travaillés avec les représentants des agriculteurs.
Et parmi les mesures annoncées, la présentation promise début mai de la version définitive du plan Ecophyto, de réduction des pesticides, de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations, l'accélération de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation. Concernant les millions d'euros de prêts pour les agriculteurs les plus en difficulté, il faut attendre d'en voir la concrétisation, dit sur France Info Christophe Chambon, secrétaire général adjoint de la FNSEA, le principal syndicat agricole.
Maintenant, il faut le concrétiser pour que ces agriculteurs en bénéficient rapidement sur leur exploitation. Vous savez très bien qu'une crise ne se termine pas aussi vite en claquant des doigts et en faisant des annonces. Aujourd'hui, la crise, il faut vraiment que ruisselle dans les cours de ferme tout ce qui a pu être annoncé depuis des mois.
Voilà, parmi les autres réactions syndicales, pas mal de réserves sur ces annonces. En clair, Adeline Percept, il y a les promesses et puis il y a le quotidien des agriculteurs.
Oui, effectivement. Alors sur les promesses, en tout cas, il me semble que le gouvernement fait beaucoup de promesses, surtout à la FNSEA, c'est-à-dire à une partie des agriculteurs. Et c'est vrai qu'il est difficile, à mon avis, de contenter tout le monde, tant le monde agricole et le monde rural est traversé par des radicalités très différentes, des quotidiens très différents. Quel point commun entre le céréalier de la Beauce et puis le tout petit viticulteur de l'Occitanie. Donc tous ces gens-là étaient quand même dans ce qu'on a appelé le mouvement agricole.
Et les annonces sont trop globales du coup.
Au final, je trouve que les annonces sont surtout en direction de la FNSEA et c'est ce qu'on a vu aussi au niveau européen avec le vote sur cette révision de la PAC qui oublie quand même un certain nombre de dispositions ou qui ajourne un certain nombre de dispositions qui avaient été prises pour des questions environnementales. Donc, je dirais que ça va dans un sens.
Richard Verli, il peut clore le chapitre de la crise agricole de cette façon, Gabriel Attal, des annonces et on n'en parle plus, au moins jusqu'aux européennes.
Bon, en tout cas, il s'y emploie. Et je trouve que quand même, il marque un point, il suit les dossiers. Il cite le nombre de promesses qui ont été faites, celles qui, selon lui, ont déjà été exaucées, les nouveaux engagements. Bref, on a vraiment l'impression d'un ministre de l'Agriculture bis. D'ailleurs, son ministre de l'Agriculture parle relativement peu. De ce point de vue-là, je pense que ça peut marcher. Il peut convaincre une frange de l'opinion qu'il s'est emparé du dossier et qu'il le suit. La difficulté, c'est de convaincre les agriculteurs. Parce que les agriculteurs, d'abord, ils ont des problèmes qui vont durer. Ces mesures, notamment les fameuses mesures de simplification, on a dit qu'un certain nombre de normes avaient disparu ou que les préfectures les avaient supprimées, mais ça n'a quand même pas l'air d'être le grand choc de simplification attendu. Et puis, il y a toute la question européenne. Et donc, le risque, disons-le, c'est quand même qu'une partie de la colère des agriculteurs se traduise dans les urnes par un vote pour le parti le plus anti-européen, qui est le Rassemblement National.
Anna Navarro-Pedro, pour revenir sur ce que disait Adeline Percept sur le fait que finalement Gabriel Attal ne parle qu'à la FNSEA, je me souviens qu'Emmanuel Macron avait promis de recevoir à nouveau les syndicats d'agriculteurs, ce n'a pas été le cas. Finalement, Gabriel Attal qui vient sur le terrain parler un peu plus à tout le monde, c'est pour donner cette impression justement que son discours est plus large?
En tout cas, il faut qu'il essaye par tous les moyens de ne pas avoir un problème agricole à la veille des élections européennes, ça c'est sûr.
Après, on verra bien.
Après, on verra bien. Donc, la mise en place des mesures va prendre son temps aussi. Et je suppose qu'il aura le bénéfice du doute auprès des agriculteurs. C'est vrai que la révision de la PAC à Bruxelles, cette semaine aussi, est l'avantage essentiellement les grandes surfaces agricoles en Europe. Il y a une petite mesure concernant les petites surfaces avec un allègement du contrôle administratif et des contrôles et des respects des mesures environnementales. Mais essentiellement, tout se fait au détriment des mesures environnementales. Et est-ce qu'on a vraiment répondu au problème des agriculteurs? Est-ce qu'on a pris le taureau par les cornes comme il faut? Ça reste à voir.
Et on va continuer d'en parler. On marque une pause. Le Fil Info, 20h10, Emmanuel Langlois.
Trois départements du sud-ouest contre 8 il y a quelques heures. La Dordogne, le Lot et le Tarn-et-Garonne sont maintenus ce soir en vigilance orange aux orages par Météo France. En Dordogne, 9000 foyers sont privés d'électricité. C'était le cas en début de soirée, en tout cas après des chutes d'arbres sur des lignes à haute tension et sur les rails également. Plusieurs trains ont été supprimés. L'alerte est valable jusqu'à 23h ce soir. En Espagne, et à moins de 48 heures de l'annonce attendue de sa décision, des milliers de sympathisants du Parti Socialiste se sont rassemblés ce samedi pour demander à Pedro Sanchez de ne pas quitter son poste, le Premier ministre espagnol, qui a dit en effet qu'il réfléchissait à démissionner après l'ouverture d'une enquête contre son épouse. De nouvelles coupures d'électricité en Ukraine, où le pays fait face aux dégâts d'une nouvelle attaque massive de missiles russes contre ses infrastructures énergétiques, qui a endommagé cette attaque 4 centrales thermiques. Les autorités de Kiev affirment de leur côté avoir pris pour cible 2 raffineries en Russie avec des drones. Et puis la marche était encore une fois trop haute. Les Français s'inclinent pour la 13e fois de suite face à l'Angleterre, 42-21. Ce soir à Bordeaux, dans le tournoi des 6 nations féminins de rugby, devant plus de 28 000 spectateurs, un record. Les Anglaises, elles réussissent leur 6e grand chelem d'affilée. Du rugby encore, et le top 14, le Stade Toulousain qui s'impose 32-12 face au Racing 92. Bordeaux l'emporte à Bayonne 15-34. Lyon bat Pau 38-20 et Perpignan a surpris sur la pelouse de Montpellier 25-20. Castres enfin s'incline chez la Lanterne Rouge, Oyonnax 22-19 et s'éloigne d'une qualification en phase finale.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
La crise agricole avec Gabriel Attal sur le terrain dans le département de la Manche. Aujourd'hui, sur France Info, la coordination rurale a dit ce samedi, c'est dommage d'avoir attendu 2 mois pour des mesures qui auraient pu être annoncées. Eh bien, il y a 2 mois, Henrik Bonnet, pourquoi le gouvernement, selon vous, a-t-il attendu?
Oui, il a fait beaucoup d'annonces à la fin janvier, en février. Les annonces, elles ont été constantes. Après, je suis d'accord que c'est important aussi de suivre l'application de certaines annonces, parce que par exemple, un cas intéressant, c'est la loi agricole qui a été présentée à la fin mars et les débats à l'Assemblée nationale qui ont été bloqués et qui semblait que l'adoption, il pourrait être beaucoup plus compliqué de ce qu'il pensait le gouvernement au début. Donc, je suis d'accord avec mes collègues de que c'est, en fait, le gouvernement, il a été, on va dire, efficace par rapport au fait de fermer la crise agricole dans l'immédiat, mais c'est à voir qu'est-ce qui va se passer sur les raisons du fond. Est-ce qu'il va réussir à résoudre les raisons du fond Oui ou non? Parce que, par exemple, une grande question qu'il y avait derrière cette crise agricole, c'était la rémunération des agriculteurs. Et par rapport à ça, il semble que finalement, il n'y a pas de mesures énormes. Par exemple, aujourd'hui, ils ont annoncé par rapport aux retraites, le fait de comptabiliser les retraites à partir des 25 meilleures années. C'est une mesure intéressante, mais ce n'est pas une mesure
structurelle. Très critiquée par la plupart des syndicats.
Par exemple, donc très critiquée, notamment. Donc, ce n'est pas une grande mesure, comme par exemple, il aurait pu être le fait d'établir des prix minimums, des prix planchers. C'est des mesures aussi très critiquées par certains syndicats, défendues par d'autres, mais qui auraient été des mesures au moins structurelles.
Adeline Percept, est-ce que l'idée de garder des mesures encore aujourd'hui, c'était peut-être de prévoir d'éventuels blocages et d'en garder un peu sous le pied, entre guillemets ?
Oui, je pense qu'il y a une stratégie d'annonce, parce que de toutes les façons, ils ne pouvaient pas débloquer la crise agricole d'un coup d'un seul, si je puis dire. Il y avait une telle colère, une telle émotion, on s'en souvient, dans le monde agricole, qu'il fallait prendre du temps pour aller sur le terrain. Gabriel Attal l'a fait, Marc Fesneau l'a beaucoup fait aussi, même s'il a été plus discret finalement. Donc il fallait prendre toute cette mesure et il ne pouvait pas tout annoncer en même temps. Ce qui est compliqué aussi dans ce timing des européennes, c'est que c'est vraiment le tapis rouge pour le Rassemblement National, qui essaye de capter l'électorat agricole comme il a capté un certain électorat rural. Au fil des décennies, j'allais dire, on voit les dernières législatives, par exemple, on a vu éclore des députés RN dans tous les départements ruraux autour de Paris, par exemple, l'Eure-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loiret. Et au fond, Jordan Bardella y a vu quasiment du pain béni hein, dans cette crise agricole. Donc, il a fallu aussi au gouvernement tenter d'être peut-être... moins dans quelque chose de trop rapide et de suivre les dossiers et de continuer à être en contact permanent avec les organisations.
La crise agricole qui d'ailleurs existe partout en Europe, on l'a dit hein, déjà, dans chacun des pays d'ailleurs de nos invités. Où en est-elle en Suisse, Richard Verli, cette crise?
Alors la crise, elle portait surtout sur le revenu, sur les problèmes de revenus. Elle portait moins sur les questions administratives, la question de la simplification, et elle portait moins sur la concurrence étrangère. Vous savez qu'une des grandes revendications des paysans français, c'est que stoppe la concurrence, selon eux, déloyale au sein de l'Union européenne, puisqu'ils disent que certains pays de l'Union européenne, ils pointent par exemple l'Espagne, exportent vers la France des produits à des prix beaucoup plus bas. Donc le gouvernement suisse a dû faire des efforts, il a dû débloquer de l'argent. Pour l'instant, c'est calme, mais ce qui est sûr de toute manière, c'est qu'au niveau européen, on voit bien que structurellement, l'agriculture continue de perdre du terrain, que la profession s'inquiète parce que c'est une profession qui demande énormément d'investissements humains et matériels aujourd'hui, et que le revenu qui est en face ne correspond pas à cette somme d'efforts.
Ce sont les mêmes problèmes au Portugal,
pas les mêmes problèmes qu'en France, parce que le Portugal a perdu beaucoup de sa production agricole depuis qu'elle est entrée dans l'Union européenne. Une grande partie des terres, des grandes terres, ont été achetées par des entreprises de l'agroalimentaire espagnole qui produisent chez nous. Et puis nous avons de très petites surfaces, donc les questions sont un peu différentes, mais par exemple la question des revenus, la question des retraites, la question des aides familiales dans les entreprises agricoles sont primordiales chez nous aussi. Et puis la question principale, c'est de revenir à la souveraineté alimentaire, au moins une certaine capacité d'alimenter toute la population. Parce que si à l'autre bout de l'Europe, si un jour on est dépendant uniquement des importations et qu'il y a des soucis de transport, de production en Europe, on va être très très mal.
En Espagne, Enric Bonnet, on parle beaucoup en ce moment de Pedro Sanchez et de l'attente d'une possible démission. Il fera son annonce, on l'a entendu encore lundi. Qu'en est-il de la crise agricole? Il y avait eu aussi des manifestations.
Oui, il y a eu des manifestations à Barcelone, à Madrid, un peu des manifestations assez importantes. Là, c'est beaucoup calmé, beaucoup moins d'impact médiatique.
Il y a eu des mesures annoncées?
Très peu de mesures. C'était un peu l'une des particularités de l'Espagne, c'est que le gouvernement, il a annoncé assez peu de choses. Il s'est réuni avec les agriculteurs, les gouvernements nationaux, aussi les gouvernements régionaux. Mais finalement, ils ont annoncé assez peu de mesures, ils ont insisté beaucoup par rapport à une autre question, que c'est vrai aussi, c'est que la réponse à beaucoup des problèmes des agriculteurs, c'est la réponse européenne. Et c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, on a entendu beaucoup d'annonces de Gabriel Attal, mais les grandes mesures avec lesquelles on devra affronter les grands défis de l'agriculture seront... C'est la prochaine Commission européenne qui devrait l'affronter, ou qui devrait l'affronter. Donc c'est un bel... Finalement, notamment, je pense, la question de comment l'agriculture peut affronter la transition climatique avec en accompagnant les agriculteurs, voilà, sans qu'il y ait une perte ni une disparition de l'agriculture. Mais ça, c'est une réponse probablement plus européenne que nationale. Et c'est vrai qu'en Espagne, les différents gouvernements, ils ont beaucoup insisté sur ça, ce qui était sincère, mais en même temps, c'était une manière aussi de mettre l'argent sur ça. Après, c'est vrai qu'en Espagne, finalement, l'actualité, souvent, elle a été un peu comme ici en France. Maintenant et depuis quelques semaines, elle a été beaucoup plus centrée sur d'autres questions. C'est ce qui a fait qu'on a oublié un peu les agriculteurs. Et aussi, une autre question importante en Espagne, c'était qu'au début, c'était très centré sur la question de l'eau, des sécheresses historiques dans certaines régions, notamment à l'est de l'Espagne, comme la Catalogne, et des sécheresses qui se sont calmées un peu parce que depuis quelques semaines, il a plu. Donc, cette question de l'eau s'est calmée, même s'il reste une problématique qui reste.
Vous parliez de la réponse européenne, on se souvient de ces tracteurs à Bruxelles, à l'Intercept. Les tracteurs ne sont plus là, mais est-ce que les problèmes sont pour autant résolus pour les agriculteurs belges ?
Non, et pas tous. Alors, ce qui est intéressant de voir en Belgique, c'est que l'agriculture est très disparate, et notamment côté flamand, on a vraiment des très grandes exploitations, notamment d'élevage de porcs, qui ont été soumis à des nouvelles règles environnementales. Et là, on voit que le parti d'extrême droite flamand surfe là-dessus pour être vraiment aux avant-postes de la colère agricole de ce côté-là. Et puis côté wallon, très sincèrement, c'est exactement les mêmes problèmes qu'en France. Vraiment. Et d'ailleurs, les agriculteurs ont beaucoup, ceux du Nord et les wallons ont beaucoup collaboré. Il y a eu beaucoup d'actions à la frontière. On est vraiment sur... Et puis le même type de réponse aussi. On attend aussi beaucoup de l'Europe.
Les Européennes.
Oui, mais on parle beaucoup de certains des mouvements écologistes et la gauche européenne, en Parlement même, qui vont faire un recours contre les mesures adoptées mercredi dernier pour changer la PAC. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça risque de traîner un peu.
Et on aura l'occasion d'en reparler. On va parler du conflit entre le Hamas et Israël dans un instant, le temps de dérouler le fil info à 20h20. Emmanuel Langlois.
Après Sciences Po Paris, Sciences Po Reims, la convention nationale de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'amitié entre les peuples, prévue aujourd'hui sur le campus champenois, une annexe de la célèbre école parisienne, eh bien, a dû être délocalisée à l'hôtel de ville de Reims à cause du blocage des locaux par des étudiants en soutien à la cause palestinienne. Sur le réseau social X, la LICRA dénonce des méthodes liberticides. Fin de citation. Aux États-Unis, cette fois, ce sont une centaine de personnes considérées comme des manifestants pro-palestiniens qui ont été arrêtés sur le campus d'une université de Boston. Leur campement a été évacué par la police. Anthony Blinken, de retour au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie américaine sera en Arabie Saoudite lundi et mardi, notamment pour discuter des efforts en cours visant à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza qui permette la libération d'otages. Il assistera également au Forum économique mondial qui se tient à Riyad jusqu'à lundi. Le tennis et Rafael Nadal toujours dans la course. À bientôt 38 ans, l'Espagnol qui tente un dernier retour en forme. Après s'être incliné contre lui la semaine dernière à Barcelone, il s'offre cette fois une victoire en 2-7 face au 11e joueur mondial, l'Australien Alex de Minaur, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. Nadal qui n'avait plus battu de joueur du top 20 depuis novembre 2022. Et puis Alizée Cordet, elle raccroche sa raquette à 34 ans. La joueuse de tennis française annonce dans un entretien à Canal+, qu'elle prendra sa retraite après avoir disputé une dernière fois le tournoi de Roland-Garros à partir de fin mai. La Niçoise qui détient le record du nombre de tournois du Grand Chelem joués d'affilée, 68 depuis l'Open d'Australie en 2007.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Parlons à présent du conflit au Proche-Orient, bientôt 7 mois depuis l'attaque du Hamas en Israël, avec une nouvelle manifestation ce soir à Jérusalem de familles d'otages et d'opposants à Benjamin Netanyahou. Mobilisation alors que subsiste l'espoir d'une trêve. Le Hamas étudie une contre-proposition de l'État hébreu. L'idée serait d'échanger 750 prisonniers palestiniens contre tous les otages. Ils sont encore 130, les otages israéliens. Une vidéo du Hamas montre d'ailleurs ce soir deux d'entre eux, deux hommes de 64 et 47 ans. La vidéo d'un autre otage avait déjà été diffusée dans la semaine. Richard Verlier, avec ses vidéos, le Hamas fait clairement pression sur Israël. Quel est l'objectif ?
Oui, c'est une pression affreuse. abominable qui correspond à la guerre que le Hamas mène depuis le début sur ce territoire après l'assaut du 7 octobre qui était une action clairement menée de façon terroriste afin de provoquer le maximum de dégâts. Après, il y a eu cette guerre, il y a les résultats de cette guerre, les destructions à Gaza. Ici même sur cette antenne, vous avez diffusé le témoignage d'un soldat franco-israélien qui dit qu'il n'y a plus rien, littéralement, ce sont ses propres paroles. Et la bande de Gaza est dans l'attente de l'ultime bataille, puisque Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, annonce toujours la fameuse bataille sur Rafah. Donc ce n'est pas étonnant que le Hamas joue cette dernière carte, qu'il la joue d'une manière encore une fois affreuse et qui nous choque, mais cette guerre de toute façon est absolument terrible et elle laissera des traces, tout le monde le sait, dans les deux camps, bien au-delà de Gaza. Et les otages, les familles des otages sont en ce moment en train de manifester en permanence, parce que Benjamin Netanyahou est prêt, semble-t-il, à les sacrifier. On verra s'il va jusqu'au bout et s'il mène cette offensive sans avoir préalablement libéré les otages.
La balle est dans le camp du Hamas, Anna Navarro-Pedro. C'est une dernière chance, en quelque sorte, d'éviter justement cette offensive terrestre à Rafah. On le rappelle, hein, plus d'un million de
Ils
personnes
vivantes
aujourd'hui.
Ils analysent donc la proposition israélienne pour un cessez-le-feu temporaire, dont il est question de la libération d'une quarantaine d'otages, si j'ai bien compris, des cas humanitaires d'après Israël. Mais effectivement, elle est dans son camp, mais par cette intervention, il met un peu la balle aussi dans le camp du gouvernement. Et vous voyez bien, on parle beaucoup de ces dernières manifestations, mais elles n'ont jamais cessé. Même après, elles existaient avec les manifestations de masse avant le 7 octobre, et après les attaques d'Hamas terroristes, d'Hamas le 7 octobre. Très vite, vous avez eu des manifestations des familles des otages, même devant la résidence de Netanyahou.
Mais qui se sont élargies, c'était au début les proches, les familles, aujourd'hui voilà. C'est plus
mais
large.
Aujourd'hui, c'est des milliers, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de gens. Le Parti travailliste s'est joint aux manifestations de rue. Le leader, celui qui brigue le poste de chef du Parti travailliste a fait un tweet. Il a dit que jamais Israël n'avait été dirigé par un gouvernement aussi raciste, aussi fasciste et aussi incapable comme celui qui est actuellement l'alliance entre Netanyahou et l'extrême droite. Donc il y a quelque chose qui se passe et effectivement, la question des otages est clos. On sait, par énormément de fuites d'informations et de confidences dans la presse israélienne depuis quelques mois, que les otages ne sont pas une préoccupation pour le gouvernement Netanyahou, qu'ils sont prêts à les sacrifier, notamment ces ministres d'extrême droite, pour aller en finir avec le Hamas. Et cette semaine encore, on avait un officier de l'armée de Tsahal qui disait à certains médias qu'en fait il reste 4 bataillons d'Hamas à Rafah, qu'il faut y aller et qu'ensuite il faut aller faire la guerre contre au Liban contre les Hezbollah. Donc vous voyez, on peut avoir énormément de négociations, les Égyptiens qui sont en Israël pour négocier avec les Israéliens, Mahmoud Abbas qui va aller à Riyad négocier avec le Hamas mais aussi avec Blinken bientôt et les Saoudiens, et bien on peut avoir toute cette activité. En réalité, il semble que le gouvernement soit décidé à aller jusqu'au bout de sa logique carrière.
On reviendra sur le rôle de l'Égypte. Henrik Bonnet, le gouvernement de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, on s'en souvient, au début affichait effectivement deux objectifs très clairs, à la fois anéantir le Hamas et libérer tous les otages. Aujourd'hui, il s'agit simplement de détruire le groupe terroriste.
Oui, il semble que c'est surtout d'annihiler les groupes terroristes. Il y a aussi la grande incertitude de qu'est-ce qu'il voudrait faire avec la population palestinienne? Parce que malheureusement, il y a certains ministres qui représentent des minorités hein, dans le gouvernement Netanyahou, mais les ministres d'extrême droite qui évoquent la possibilité de les expulser en dehors de Gaza. Donc ce qui serait une condition probablement que très difficilement les pays arabes ils pourraient accepter. Donc d'un point de vue militaire, par l'instant, c'est compliqué de faire le bilan des résultats de cette guerre pour Israël. Moi, d'un point de vue politique, moi, je pense que c'est une défaite politique et morale pour Israël depuis longtemps. Probablement, il y a une partie de la population israélienne qui, petit à petit, se rend compte de ça, outre le fait de se rendre compte que les otages, ce n'est pas une priorité pour Netanyahou. Il se rend compte aussi que, finalement, l'image de son pays...
D'où le cynisme de Benjamin Netanyahou qui, finalement, reste au pouvoir... maintient la guerre, pardon, pour rester au pouvoir.
Oui, il semble. Et aussi, le cynisme de quelqu'un qui a... Dans un moment donné, il a semblé qu'il souhaitait externaliser le conflit pour rester au pouvoir et aussi peut-être pour qu'il y ait un peu moins de pression médiatique sur Gaza. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ces moments, c'est qu'on voit que des semaines après, il y a des semaines, la tension, c'était Israël-Iran. il y a des semaines, juste des semaines, l'Iran, il a répondu, finalement, d'une manière assez intelligente, très cynique, comme sont les Ayatollahs, mais intelligents, puisqu'ils ont franchi une ligne rouge, mais finalement, d'une manière qu'ils ont cherché l'apaisement.
Allés beaucoup plus loin.
Ils ont cherché l'apaisement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte d'apaisement entre Israël et l'Iran, mais il y a plus de pression sur l'Israël. Et ça, peut-être, ça pourrait favoriser un accord, au moins une cessez-le-feu peut-être temporaire entre l'armée israélienne et les Hamas.
Et on va continuer d'en parler dans la seconde partie des informés.
20h, 21h, les informés. Victor Mattey.
Les informés dans le studio de France Info. Ce soir, les correspondants de la presse étrangère en France. Anna Navarro Pedro, correspondante de la presse portugaise. Adeline Percept pour la RTBF à Paris. Richard Verli pour le quotidien suisse Blick, correspondant France et Europe. Enric Bonnet, journaliste espagnol pour El Periodico. Nous évoquions le conflit au Proche-Orient, notamment Benjamin Netanyahou. Adeline Percept, la politisation, si l'on peut dire, peut-être la colère des familles qui s'intensifie à l'encontre du Premier ministre.
Oui, on la comprend, la colère des familles, parce que les familles d'otages ont réellement la sensation qu'elles peuvent et qu'elles vont passer totalement au second plan. Au début, au fond, elles ont fait attention à rester en retrait de la politique intérieure, et au fil des semaines, on a vu, et des mois, on a vu comme certains osent porter une parole contre la stratégie de Netanyahou, qui lui est carrément même parti dans une guerre informationnelle contre les personnes qui, parmi ces familles d'otages, sont un petit peu trop à gauche. On a vu comme son parti essaye de les discréditer carrément sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est absolument terrible pour ces familles d'otages qui se demandent même si certains d'entre eux sont vraiment toujours vivants. Il y a aussi le doute sur certains d'entre eux. Enfin,
on estime à une trentaine de morts parmi les otages pour l'instant dans les tunnels du Hamas.
Exactement, mais toujours une estimation. Et c'est vrai que le gouvernement israélien ne leur donne aucune réponse fiable là-dessus.
Je voudrais qu'on dise un mot aussi des négociations qui se font désormais sous l'égide de l'Égypte, pas facile à dire, et non plus du Qatar. C'est aussi une nouvelle donnée, Richard Verli, parce que l'Égypte clairement ne veut pas de cette offensive à Rafah qui pousserait de très nombreux Gazaouis sur son territoire.
Absolument, ça met le gouvernement israélien en difficulté parce que, encore une fois, Benjamin Netanyahou a promis cette offensive. Il a répété que le plan existe et que la bataille de Rafah aura lieu. Et il est vrai, quand on entend des experts militaires, que si la volonté d'annihiler le Hamas est toujours là du côté du gouvernement israélien, cette bataille de Rafah, elle est nécessaire pour Israël. Parce que sinon, ça voudra dire que l'ultime sanctuaire n'a pas été touché. Mais bien évidemment, vu les populations qui sont sur place, vu le problème de cette frontière avec l'Égypte, vu les 40 000 morts aujourd'hui qui ont eu lieu à Gaza, c'est une situation inextricable dans laquelle se trouve aujourd'hui Benjamin Netanyahou, avec toujours cette même question, a-t-il besoin de la guerre pour survivre politiquement? Et malheureusement, la réponse est oui.
Quelle est la lueur d'espoir que l'on peut avoir, Anna Navarro Pedro?
Alors, il y a des négociations qui vont se passer à Riyad, là, bientôt. Un site d'information israélien nous expliquait qu'un avion qui habituellement, d'un businessman israélien qui transporte les agents du Mossad, avait été vu atterrir avec des passagers à bord à Riyad. On sait qu'il va y avoir le secrétaire d'État américain Blinken, et Mahmoud Abbas est invité aussi à aller à cette réunion à Riyad. Donc, est-ce qu'il pourra en sortir quelque chose? On verra bien. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine entre dans le jeu d'une façon discrète, mais elle va essayer d'obtenir une sorte d'union entre le Fatah de Mahmoud Abbas et le Hamas. Ce qui ne plaira certainement pas ni à Israël ni aux États-Unis.
C'est ce qu'a dit d'ailleurs Xi Jinping lors de son entretien avec Anthony Blinken hier à Pékin.
Qui d'ailleurs était, petite anecdote, c'était très intéressant parce que Blinken a fait attendre le président chinois, et quand finalement ils se sont serrés la main, le président chinois lui demande « Vous repartez quand ?» Donc ça prouve qu'il y a quand même des tensions diplomatiques. Donc est-ce que quelque chose pourrait sortir de tout cela? Non, les armes ont été prises et cette côté militaire ira jusqu'au bout de sa logique, hélas, et pour les familles des otages, pour les Israéliens, pour les Palestiniens de Gaza, pour les Palestiniens de Cisjordanie, parce que là aussi, il y a des choses innommables qui se passent tous les jours, des terres prises, des maisons prises, pour les chrétiens aussi, qui voient leurs maisons être prises, les Arméniens aussi. Donc il y a une tension absolument et une haine dans l'air qui ne seront pas apaisées, je le crains, par des avancées diplomatiques.
Tiens, comme un pont avant notre prochain sujet, le conflit au Proche-Orient, c'est aussi cette phrase de Thomas Barr, vous savez, le président du CIO, le Comité international olympique, qui a pris, je cite, l'engagement que si aucun athlète palestinien ne se qualifie sur le terrain pour les Jeux de Paris, ils bénéficieront d'invitations, mesure saluée notamment en France par Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation des Jeux. Henrik Bonnet, c'est une bonne mesure, ce qu'annonce Thomas Barr?
Oui, une très bonne mesure. Le sport, il sert à ça, et les Jeux Olympiques de cet été, dans un monde très bouleversé, ils peuvent servir à porter un peu d'épée, un peu de la reconnaissance à l'égard de la Palestine, une reconnaissance peut-être non seulement qui peut servir à faire de la pression à Israël et peut-être d'ouvrir la voie à une solution. Et même aussi, ça peut être une manière aussi d'envoyer un message un peu plus universaliste dans un monde où on a le sentiment qu'un peu tout ce qu'on appelle le sud global, que finalement le sud global est beaucoup plus divers de ce qu'il laisse entendre ce concept, mais un monde où le sud global, il a profité un peu de ce conflit de la Palestine pour dénoncer finalement la double barre des mesures de l'Occident et aussi pour laisser entendre ce sentiment d'un monde où l'Occident est en train de s'isoler. Donc je pense que les Jeux Olympiques, ils peuvent servir comme une alternative à ça, de donner un message universaliste, et c'est une mesure positive.
Ça envoie un message, Adeline Percept, à ceux qui disent que le sport n'est pas politique.
Non, mais le sport est très très politique. et au fond, mais politique pour le coup dans un bon sens. Et c'est ce que disait Henrik, c'est-à-dire on peut véhiculer des valeurs par le sport, évidemment par les Jeux Olympiques, qui ont une histoire, et par la culture aussi. Donc, tout ce qu'on peut faire finalement en Occident pour aider à trouver un peu de raison dans tout ça est bienvenu, à mon avis.
La politique et les JO, on verra si les JO et le sport marchent aussi.
Et n'oublions pas la question qui commence à être au premier plan en Europe de la reconnaissance de l'État palestinien. Il y a deux pays, l'Espagne et l'Irlande, qui réfléchissent sérieusement. La question est posée aussi à la France. Vous savez qu'un certain nombre de pays européens reconnaissent la Palestine parce qu'ils étaient avant dans l'ancien camp soviétique. Eh bien, le moment est sans doute venu de se poser la question, parce qu'on dit toujours deux États. Eh bien, si c'est deux États la solution, il est peut-être temps de reconnaître la Palestine.
20h40 sur France Info, l'essentiel, Emmanuel Langlois.
Ce drame dans la Loire, où une adolescente de 15 ans s'est tuée ce samedi en passant à travers le toit d'une usine désaffectée sur la commune d'Unieux. Une autre jeune fille, âgée elle de 17 ans, a été grièvement blessée dans cette chute. Elle faisait partie d'un groupe de 4 personnes, 4 jeunes pratiquant l'urbex, l'exploration de friches urbaines. Dans le sud-ouest, près de 10 000 foyers sont privés ce soir d'électricité après un épisode de vent violent qui a provoqué des chutes d'arbres, notamment sur des lignes à haute tension et sur les rails. Plusieurs trains ont ainsi été supprimés dans le département de la Dordogne. Perturbation aussi sur le réseau TER dans le Limousin. Plus aucun département n'est ce soir en vigilance orange aux orages, d'après Météo France. Gabriel Attal annonce plusieurs mesures en faveur des agriculteurs en déplacement dans la Manche. Le Premier ministre promet ainsi de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations, l'accélération de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation dès cette année, ainsi qu'un plan d'aide à 3 départements frappés par les crises météo, les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault. Un journaliste russe collaborant avec plusieurs médias a été placé en détention provisoire aujourd'hui pour extrémisme. La justice russe lui reproche d'avoir participé à la création de vidéos pour la chaîne YouTube de l'équipe de l'opposant défunt Alexei Navalny. Il restera derrière les barreaux au moins jusqu'à fin juin dans l'attente de son procès. Et puis les joueuses du 15 de France ont encore perdu contre l'Angleterre, 42-21. Les Bleus qui terminent à nouveau ce deuxième du tournoi destination féminin de rugby à Bordeaux. Les Anglaises, elles, enchaînent un sixième grand chelem.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor. Peter Mattet.
Nous évoquions les Jeux Olympiques avec la flamme qui est partie de Grèce ce matin direction Marseille. L'arrivée prévue le 8 mai, un voyage à bord du bateau le Belém avec l'équipage et une dizaine de jeunes pour veiller sur cette flamme. C'est le cas de Clara, 22 ans, actuellement en service civique.
Pour moi, c'est un truc juste oufissime parce que c'est vraiment un événement qui est international et ça passe sur toutes les chaînes de télé. Et puis, moi, je suis pas grand-chose à mon échelle et je me dis pouvoir faire partie de ça, c'est juste grandiose en fait. C'est un truc que je pourrais jamais refaire. Et...
Voilà, c'est juste oufissime, nous dit Clara, Richard Verly. Est-ce que ça intéresse les médias pour lesquels vous travaillez cette traversée de la flamme olympique?
Oui, le spectacle, bon, il est surtout très beau pour la télévision, il faut le reconnaître.
En radio, même on l'a couvert quand même.
Toute voile déployée, le Belém dans la baie d'Athènes, le symbole que cela représente, bien évidemment, ce sont des images qui resteront. C'est par ailleurs une très bonne idée d'avoir fait, je trouve, d'avoir demandé à ce voilier historique de transporter la flamme. Après, je pense qu'il faut quand même se poser la question, c'est que quand la flamme va arriver à Marseille, il y aura à nouveau, je pense, une grande cérémonie d'accueil.
150 000 personnes qui sont attendu.
Mais la vraie traversée symbolique, ça va être celle de la France. La vraie traversée qui va dire quelque chose ou non de la ferveur du pays pour les Jeux Olympiques, ce sera la traversée de la France. Donc en ce qui me concerne, c'est sur celle-là que je vais me focaliser pour essayer de voir si les Français en ont envie ou pas de ces Jeux Olympiques.
Le Belém, Ana Navarro Pedro, c'est le nom d'un quartier de Lisbonne, bien entendu.
Ça nous parle tellement, et puis un beau bateau comme ça, fond littéralement. Donc on a fondu littéralement pour cette cérémonie à Athènes, qui était très belle par ailleurs, très télévisive, très pictural. Et donc puis
est-ce que ça peut être le début de quelque chose d'un engouement,
parce
que
à ce moment-là on a commencé à parler combien de athlètes nous avons déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques, etc.
Parce que j'allais vous dire, on a parlé jusqu'ici du moins en France que des problèmes de transport, de logement, de sécurité. Est-ce que ça peut être le début d'un engouement de quelque chose?
Une tendance dans les rédactions, j'ai parlé avec d'autres collègues aussi, même dans les pays nordiques, qui disent on commence à ne pas vouloir des sujets qui parlent des soucis que les Français ont encore avec l'organisation des Jeux. On veut des sujets un peu plus joyeux, un peu plus tournés vers le sport. Donc, c'est un peu du déterminisme, là. Hein. C'est pas encore, ça vient pas encore du cœur, mais ça commence.
Henrik Bonnet, est-ce qu'avec la crise politique espagnole, il y a de la place pour cette traversée de la flamme olympique dans les médias espagnols?
Pas cette semaine, pas depuis mercredi. Après, avant, oui, il y avait s'intéresser, par exemple, à 100 jours des Jeux olympiques. J'avais publié plusieurs papiers, donc ça s'intéresse évidemment les Jeux olympiques. Ça intéresse aussi un peu la manière comment, par l'instant, les Français et les Parisiens les vivent, parce que c'est une manière presque opposée, parce qu'à Barcelone, il y avait une grande ferveur. Par l'instant, il n'y a pas
les
la ferveur.
Les Jeux de 92.
Exactement, 92. Après, moi, je pense qu'ici, les Jeux olympiques, ils pourraient avoir un bon allié avec le football, notamment l'Euro du mois de juin. L'équipe de France, il fait un bon Euro, peut-être ça peut créer un ambiance sportif, même un peu avant avec les Paris Saint-Germain.
Oui, on dit toujours que la France n'est pas un pays de sport, mais...
Oui, non, mais je pense que c'est un pays de sport. Hein. Au moins, la manière comment les Français suivent l'équipe nationale, les athlètes nationaux, et notamment certaines équipes nationales, notamment le football, c'est un grand ferveur. Donc moi, je pense que les Jeux Olympiques, ils pourraient avoir un bon allié avec l'Euro, et peut-être même avant avec les Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions, où il a des chances d'arriver à la finale et même de les gagner.
On verra, il y aura la première demi-finale, allez, la semaine prochaine. On a retenu jusqu'ici, on le disait, que le négatif, finalement, Adeline Perceft, hein, et pas le positif, les travaux, on disait, etc. Le positif, ça pourrait être, les travaux terminés dans les temps, les bons résultats des sportifs. Vu de Belgique, est-ce que finalement, ce n'est pas une attitude très française que nous avons eue jusque-là?
Non, mais c'est vrai. Alors, en plus, les Belges, j'ai l'impression, ont envie d'avoir des informations positives sur ces JO. En tout cas, elles sont mises en valeur. On sait qu'il y a des Belges qui vont porter la flamme, figurez-vous. En France, le 9 mai, une ancienne athlète belge qui est toujours record woman en Belgique du 100 mètres et du 200 mètres. Plus tard, le 3 juillet, une liégeoise qui a été sélectionnée pour venir porter la flamme. Donc tout ça, on le sait, et donc ces infos positives, on les prend. Moi, évidemment, pour l'instant, j'ai fait comme mes camarades français, j'ai beaucoup parlé des galères. Hein, voilà. Mais vous savez que les journalistes ne parlent que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc c'est un peu notre défaut. Mais je pense que, évidemment, que le temps arrivant sur cet été, après la Ligue des Champions, etc., on va quand même passer aux aspects sportifs. C'est pas comme les équipes de foot aussi, puisque au fond, les entraînements de ces grands sportifs, ils se font dans le calme, dans la sérénité, un peu dans l'intimité de chacun avec son propre record. Donc c'est pas aussi les mêmes choses qu'on peut écrire hein, sur ces athlètes-là que sur les sportifs en équipe.
Mais on voit qu'il y a des émissions, des reportages depuis des semaines, des mois. Richard Verly, est-ce qu'il y a un vrai engouement populaire? Est-ce que vous sentez que ça commence à monter avec cette première traversée de la flamme?
Alors, en ce qui me concerne, je le vois pas, justement. Et pour moi, c'est un étonnement. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de ferveur pour la préparation des Jeux Olympiques. Même lorsque vous allez sur les sites, par exemple, je pense à Saint-Denis, où je me suis rendu il y a pas longtemps, il y a de l'intérêt, bien sûr, il y a de l'espoir de ce que ça va apporter à la ville, notamment ce village des athlètes, mais il n'y a pas de ferveur. Donc, il en faut de la ferveur. Il faut qu'à un moment donné, il y ait de l'engouement pour que ces Jeux soit une fête. Alors, on a senti cela relativement au moment de la Coupe du Monde de rugby, mais elle était disséminée dans l'ensemble du pays à travers plusieurs stades. Ce que je vois quand même à Paris, et ce que tout le monde voit et attend avec inquiétude, c'est la paralysie qui pourrait résulter des voies réservées pour les Jeux Olympiques, des lignes de train réservées. En gros, si les Jeux Olympiques, si leur organisation et son efficacité devaient se faire au détriment de la population, ce serait pas une bonne nouvelle parce qu'ils étaient présentés comme le contraire, des jeux qui seraient au service de la population et de l'écologie.
Yann Hidalgo, d'ailleurs, l'a dit avec ses mots à elle, rester à Paris, voilà, c'est important.
Oui, mais tout le monde s'en va parce qu'ils n'ont pas su, associer les Français et les Parisiens, dans ce cas précis, à une certaine idée de joie, de fête, même s'il y a de la confusion, du chaos, des choses qui sont en retard. Non, tout est un peu restrictif, tout est un peu punitif, tout est un peu, même pas très connu. Hein. Donc, du coup, effectivement, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de fête pour l'instant. Peut-être qu'il viendra plus tard, sait-on jamais. Mais il n'y en a pas. On commence à voir des petites choses, là, les statues devant l'Assemblée nationale avec des couleurs bariolées, avec une planche de surf et avec des... Mais non, on n'associe pas les gens à un événement aussi grandiose. Par exemple, Rio avait été associé, c'était vraiment une joie immense. Et là, Tokyo, évidemment, ils ont eu le Covid, les pauvres.
Oui, donc, les stades étaient vides.
C'était autre chose. Mais oui, ça manque. Et puis, il y a un truc quand même qui préoccupe au niveau des athlètes, préoccupe beaucoup, c'est le village pour les athlètes.
Le village olympique.
Le village olympique, parce qu'il paraît que c'est avec des normes environnementales, etc. Mais il n'y a pas de clim. Et on se dit, bah, s'il fait 40 degrés à Paris, et qu'il a été conçu pour avoir 7 degrés en moins, ben 33 degrés, ça va quand même favoriser qui et porter préjudice à qui?
Voilà, vous avez trouvé un moyen de râler encore sur l'organisation des Jeux. Bravo Anna Navarro, Pedro. Bon, nous avons 3 mois pour voir si Paris, finalement, est une fête ou non. On va parler de livres, justement, dans un instant. Ce sera après le Fil Info, 20h50, Emmanuel Langlois.
Et 2 jours après son discours à la Sorbonne, jeudi, Emmanuel Macron se dit prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne comprenant l'arme nucléaire. Le chef de l'État l'annonce lors d'un entretien avec de jeunes Européens publié ce soir par les journaux régionaux de l'Est de la France, du groupe EBRA, le localataire de l'Élysée qui s'en prend aussi au RN, qui l'accuse de ne rien proposer. Il y a 7 ans, il voulait sortir de l'Europe et de l'euro. Il y a 2 ans, on ne savait plus trop. Fin de citation. À l'étranger, le Hamas diffuse ce soir une vidéo montrant 2 otages israéliens qu'il a enlevés lors de son attaque du 7 octobre dernier en Israël. Le mouvement islamiste palestinien qui annonce par ailleurs qu'il étudie une contre-proposition israélienne en vue d'une trêve dans les combats à Gaza associée à la libération d'otages. Le football est peut-être dès ce soir le dénouement de la saison de Ligue 1, en tout cas pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait être sacré champion tout à l'heure, aux alentours de 23h, en cas de victoire face au Havre, une équipe mal classée à 4 jours de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Dortmund. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a laissé sur le banc ce soir Kylian Mbappé tout en titularisant Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Le match à partir de 21h à suivre sur France Info depuis le Parc des Princes. Et puis voilà de quoi peut-être lui faire oublier sa déception de ne pas avoir été retenue pour les JO de Paris. La Française Audrey Tchemeo a été sacrée aujourd'hui championne d'Europe de judo pour la 5e fois de sa carrière dans la catégorie des moins de 78 kilos. C'était à Zagreb, en Croatie.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et terminons ces informés par la 26e édition de la fête des librairies indépendantes en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. Notre pays qui compte plus de 3500 librairies indépendantes qui font de la résistance, comme disent certains libraires, contre les poids lourds que représentent la FNAC, Amazon ou certains centres commerciaux. Modèle très français que cette profusion de librairies. Comment ça se passe en Belgique, Adeline Percept?
Comment ça se passe? Bah, écoutez, on fait partie
est-ce qu'il y a autant de librairies et...
Oui, mais c'est comparativement à la proportion de la population. Oui, il y a beaucoup de librairies indépendantes. Elles sont en réseau d'ailleurs avec les librairies françaises et francophones en général. L'année dernière, il y a quand même eu une hausse des ventes de livres en librairie, à peu près 1,6%. C'est
légère
pas mal.
Hausse.
C'est léger, mais ça ne compense pas l'inflation pour les libraires, etc. Un tiers des librairies indépendantes en Belgique francophone sont encore en difficulté, enfin ont des diminutions de chiffre d'affaires. Donc, le parallèle avec, je pense que le parallèle est juste avec les librairies indépendantes françaises.
Voilà. Pour rester dans le monde francophone, la Suisse, Richard Verly, il y a ce même système de librairies indépendantes?
Alors oui, il y a des librairies indépendantes. En gros, dans chaque ville moyenne suisse, vous avez une librairie, voire plusieurs. Par contre, nous, on a une caractéristique, c'est le problème du prix du livre, puisque la Suisse n'est pas en union douanière avec l'Union européenne, elle n'en est pas non plus membre, et donc par conséquent, un livre qui se vend 20 euros en France, eh bien il vaut 35 francs suisses de l'autre côté de la frontière, à un moment où en plus le franc suisse est déjà supérieur à l'euro. Donc vous imaginez, ce qui a posé beaucoup de problèmes, parce que certains grandes chaînes, dont je ne dirai pas le nom, qui sont des deux côtés de la frontière, réussissaient à s'approvisionner au prix français. Bref, le prix du livre est un vrai sujet en Suisse, moralité. Et c'est peut-être bon pour les librairies indépendantes des zones frontalières. Beaucoup de Suisses francophones vont s'approvisionner en livres autour de la Suisse et pas dans les librairies de Suisse, de Genève ou de Lausanne, pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc le prix du livre est un vrai sujet.
Il y a un pays qui avait assez peu de lecteurs et qui a redressé la barre, c'est le Portugal, Ana Navarro Pedro, notamment grâce au BD, au manga ces dernières années.
Oui, c'est vrai, mais pas que. Nous avons un problème. Nous avons une journée du livre aussi, mais c'est le 30 novembre. Je ne sais pas si c'est la même journée en Espagne d'ailleurs. Mais il y a eu aussi des librairies indépendantes qui ont péri, notamment à cause, ou pendant la politique d'austérité imposée en contrepartie d'un prêt qui avait été donné au Portugal, enfin octroyé au Portugal, et des librairies extraordinaires comme Les Lodes, comme Poussière de Livres en français, Pot de Livres ou en portugais, et qui ont péri. Et depuis, les librairies indépendantes se sont reliées par une plateforme digitale qui est de vente sur Internet, qui leur permet de survivre un peu mieux. Mais quand même, il y a eu beaucoup de victimes, si j'ose dire.
En Belgique aussi, il y a ce type de plateforme avec un stock commun.
Voilà, un stock commun. Voilà,
l'une des actualités en France, c'est la publicité pour les livres à la télé qui est désormais expérimentée, mais dénoncée par beaucoup, car elle ne profiterait qu'aux grosses maisons d'édition capables de se payer finalement ces campagnes de pub très chères. C'était pourtant une bonne idée, Henrik Bonnet, sur le papier, sans mauvais jeu de mots.
Oui, non, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est vrai que ça. Le problème, c'est que ça hiérarchise beaucoup. Ce qui se passe déjà, en fait, en Espagne, mais aussi en France, en Espagne, en fait, il y a un problème, c'est qu'on produit beaucoup de livres, parce qu'il y a un excès de production de livres. C'est un peu comme le cas français, et un peu comme le cas belge, qu'on a vu, il y a beaucoup de librairies indépendantes. Là-bas aussi, là-bas, c'est la même semaine qu'ici que vous avez donc la foire des librairies indépendantes en Espagne, c'est notamment le 23 avril, donc la journée internationale des livres, et c'est très important là-bas.
Est-ce qu'il y a de la publicité sur les livres qui existent dans vos pays, à la télévision ou pas? Richard Verly?
Non, pour ce qui concerne la Suisse, et je pense que la question va se poser, si elle se pose en France, elle se posera aussi, de toute manière pour une raison simple, puisque les chaînes françaises sont regardées en Suisse francophone, donc à partir du moment où il y aurait de la publicité sur les chaînes françaises, les Suisses les regarderont ici aussi. Je pense que c'est un vrai défi pour les petits éditeurs, cette publicité. Ou alors, il faudrait instaurer un système où une part de cette publicité serait réservée à des petits éditeurs et donc à des livres à petit tirage ou à des livres relativement méconnus. Ça voudrait dire réguler la publicité, ça me paraît très compliqué. En tout cas, si c'est pour que la publicité soit aspirée par seuls quelques éditeurs pour quelques livres, ce sera absolument contre-productif.
Il y a toujours des idées de bataille, de concurrence. Il y a cette idée aussi, Anna Navarro-Pedro, émise par Emmanuel Macron il y a une quinzaine de jours, d'une taxe sur les livres d'occasion. L'idée, c'est de favoriser l'achat d'ouvrages récents, c'est ça ?
Non, mais... Vous savez, tous les arguments ont été dit. Non, ça n'a aucune raison. Si on achète un livre d'occasion et qu'on n'a pas un beau livre qui sont bons à l'imprimerie, c'est parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Donc, imposer une taxe, ça ne rimera à rien et ça va faire encore disparaître des revendeurs de livres. Donc, enfin, ça semble dans le métier, je pense que les mesures ne passent pas très très bien. Mais pour revenir,
elle a surpris en tout cas beaucoup.
Oui, pour venir chez nous, c'est une colle. Je ne sais pas s'il y a des pubs de livres à la télé chez nous, mais il y a par contre pas mal d'émissions littéraires. Il y a un livre, un journal, je lui rends hommage, Journal de Lettres, qui est fait vraiment par des dévoués, littéralement, mais qui est un extraordinaire périodique littéraire. Et puis, la presse écrite a beaucoup, beaucoup de suppléments littéraires aussi. Donc, vous disiez tout à l'heure, oui, on lisait moins parce qu'on n'avait pas l'argent pour acheter des livres. Hein. On était vraiment dans la dèche dans le pays.
Evelyne Percet, des émissions littéraires en Belgique, il y en a beaucoup ?
Ben oui, bien sûr, il y en a. Et puis, franchement, il y a les rediffusions des émissions françaises, vous savez.
La grande librairie,
comme en Suisse, voilà. on recycle et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des baromètres sur les pratiques de lecture, on s'aperçoit que de plus en plus de gens lisent en réalité des livres numériques. Donc, il faudra quand même répondre à ce défi, puisque aujourd'hui, il y a 30% des gens qui disent lire des livres ici en France, qui les lisent en fait de façon numérique. Et donc, je pense que les librairies indépendantes qui s'interrogent depuis longtemps sur leur modèle vont devoir être de plus en plus spécialisées, probablement, aller chercher des livres qu'on ne pourra pas trouver ailleurs et qu'on ne pourra pas trouver en numérique. Et ça va être probablement l'un des défis économiques de ces librairies.
Voilà, question de changement de modèle. On parlait de livres. Le vôtre, Richard Verli, s'appelle Le bal des illusions, qui est sorti récemment chez Grasset. Est-ce que la France croit ce que le monde voit, finalement, un petit peu le sujet de nos discussions.
Absolument,
samedi soir,
tout à fait.
Sur France Info. Merci à tous les quatre, Richard Verli, Adeline Percept, Anna Navarro-Pedro et Enric Bonnet. Les informés reviennent demain matin sur France Info. Très bonne soirée à tous.